Réplique, la Chine, hier et aujourd'hui, avec Lucien Bianco et Pierre Pachet. Se demande plus aujourd'hui comment on peut être chinois. Aussi imprégné soit-on par la philosophie des Lumières et par l'idée d'une histoire universelle, on sait, depuis Montesquieu, qu'il y a des civilisations. Une autre question cependant nous taraude. Comment peut-on être à la fois capitaliste et communiste? Comment l'économie de marché se concilie-t-elle avec le règne du parti unique? La Chine contemporaine est une énigme politique. Nous tâcherons, sinon de résoudre cette énigme, du moins de la penser, avec Pierre Pachet, qui publie « L'âme bridée », essai sur la Chine d'aujourd'hui, et avec Lucien Bianco, qui apporte un nouvel éclairage sur la Chine communiste en la comparant à la Russie soviétique dans un livre intitulé « La récidive ». Je voudrais que nous partions de l'événement qui a, en son temps, fasciné une partie de la jeunesse européenne, la révolution culturelle. Cette révolution a-t-elle laissé des traces? La Chine en paye-t-elle encore les conséquences? Et d'abord, comment la définir? Qu'est-ce qui s'est passé entre l'été 1966 et l'automne 1968 dans la Chine de Mao? Lucien Bianco.
La révolution culturelle était effectivement quelque chose de tout à fait inédit et à première vue paradoxal et presque incompréhensible. Voilà un régime communiste et avant tout son chef personnellement qui mettait en question le cœur même de l'inégalité sociale sur le régime qui prétend abolir toutes les inégalités, ce que Gillas a appelé la nouvelle classe. Mais Gillas était un opposant que Tito a emprisonné. Quand Trotsky a commencé à critiquer la bureaucratie communiste, il était en exil, chassé, il était en France ou au Mexique, alors que Mao est au sommet du pouvoir. Et il faut d'abord, je vais être extrêmement méchant pour lui, mais par reconnaître qu'il mettait le doigt sur un des vices essentiels du régime, le monopole absolu du pouvoir, des privilèges, de toutes les décisions, par une caste, qu'il faut bien appeler une caste. Et c'est en même temps, alors ce que je reproche immédiatement à Mao, c'est en même temps l'inconséquence dont il a fait preuve en bien d'autres occasions. Il n'est pas prêt à payer le prix, et on le voit quand ceux que lui-même a soulevés, quand les jeunes étudiants qui avaient toutes sortes de raisons de se révolter, d'être insatisfaits, vibrent à son appel, le suivent et se révoltent partout, et bien cela aboutit à de tels désordres qu'il veut avant tout préserver la survie du régime que lui-même a mis en question. Le régime était à deux doigts de tomber vu l'anarchie qui régnait partout en Chine. Et quand on parle des dégâts de la révolution culturelle, des morts, des condamnations à mort, des exécutions, c'est beaucoup moins, comme on l'a dit d'abord, des bagarres ou des guerres entre gardes rouges. C'est très peu par rapport aux répressions de l'armée qui, en 68, pour mettre fin au désordre, va réprimer, encore une fois, je répète, des révolutionnaires sincères.
Oui, des révolutionnaires sincères, mais quand même, Mao Tse-tung met l'accent sur ce que, en langage trotskiste, on appellerait la dégénérescence bureaucratique, mais les gardes rouges s'attaquent moins à la bureaucratie directement qu'à la culture. Je veux bien qu'ils soient sincères, mais que font-ils? Ils pénètrent dans les maisons ou les appartements pour brûler les livres, détruire les tableaux, piétiner les disques et les instruments de musique, mettre en pièces tout ce qui avait trait à la culture. Alors si c'est un mouvement spontané de la part des étudiants, on se dit que quelquefois la spontanéité juvénile doit être endiguée plutôt que favorisée. Et si c'est dirigé par Mao Tse-tung, c'est autre chose qu'une révolution antibureaucratique, Lucien
Blanco. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je commençais en disant les contradictions de Marot, mais elles sont éclatantes. Bien sûr que je ne lui pardonne pas, je ne lui pardonne pas plus. Encore moins peut-être la révolution culturelle, quoi, la famine du Grand Bon, oui, qui a fait beaucoup plus de morts, mais qui a un aspect de catastrophe. Là, il l'a voulu délibérément. Bien sûr, c'est une des contradictions, mais il y en aurait d'autres. Il dit d'abord, on va débusquer ceux qui sont au sein du parti et qui visent à la restauration capitaliste, qui sont vraiment des ils se sont quelquefois infiltrés chez nous avec une injustice totale. Qui vont être les principales cibles? Un homme comme Liu Shaoqi, mais qui est bien sûr un bureaucrate assez gris, qui est pas très enthousiasmant, mais honnête, qui vivait de façon austère à la différence de Mao. Et ce sont ceux, une des définitions de ceux qui dans le parti incarne cette nouvelle bourgeoisie, puisque c'est son terme, c'est pas le terme de nouvelle classe, ça veut dire ceux qui ne suivent pas ma ligne. Ma ligne étant par définition juste, il va vouloir les déboulonner. Donc, il y a déjà... Le régime est tel, n'a pas changé. Ce régime qui veut mettre en question la nouvelle classe, eh bien, il ne renonce à rien de son contrôle absolu et de ses directives. Eux, ils croient le président Mao qui leur fixe les cibles. Quand vous parlez de toute l'attaque contre la culture, les œuvres d'art, ça c'est... Tout ce qui est vieux est mauvais. La culture, le même, ce serait une autre contradiction, le même Mao Zedong qui donc met en question la culture traditionnelle chinoise, met en question Confucius. On a vu après Confucius réhabilité et Mao, à la fin de sa vie, quelques années après, se réclamait beaucoup plus de la sagesse confucéenne que du marxisme.
Oui, mais alors justement, au début de la révolution culturelle, Lin Piao, du haut de la porte Tiananmen, avec Mao à ses côtés, exhorte les gardes rouges de tout le pays à piétiner les quatre vieilleries, la vieille pensée, la vieille culture, les vieilles coutumes et les vieilles habitudes. Et Pierre Pachet, ces vieilleries, aujourd'hui, ont-elles été réhabilitées en Chine ou la révolution culturelle, finalement, a-t-elle réussi en partie cette éradication?
Mais la destruction a été... très impressionnante en Chine, la destruction des traces du passé, c'est vrai, des monuments, mais on pourrait dire plus intimement, dans la vie intime des Chinois qui ont vécu cette période, ils se souviennent qu'ils cachaient les photos, les témoignages de l'ancienne Chine. Et alors aujourd'hui, bien sûr, cette phase est terminée, elle est depuis longtemps, mais je crois qu'elle laisse des traces profondes, parce que il me semble avoir perçu que en Chine, c'est pas seulement la destruction qui est flagrante quand on regarde sous le ciment qui recouvre, je sais pas, Pékin, tous ces bâtiments extraordinaires, riches et de mauvais goût, c'est pas seulement la destruction des anciennes demeures ou des anciens monuments, c'est intérieurement l'oubli, l'impossibilité de parler de ce qui a eu lieu. Et cette destruction-là, cette destruction intime, c'est peut-être ce que j'ai le mieux perçu. Bien sûr que la révolution culturelle, elle a laissé des traces, parce que c'était l'époque où on ne pouvait pas évoquer ceci, cela, mais... Dans la Chine contemporaine non plus, on ne peut pas évoquer toutes sortes de sujets. C'est un régime qui est fondé, autant que j'ai pu le voir, sur l'interdiction de parler publiquement de certaines choses.
Est-ce qu'on peut parler de la révolution culturelle, par exemple? Vous dites vous-même que Tiananmen, on ne peut pas y faire référence.
Non.
C'est interdit jusque...
Pour l'instant, oui.
Sur les réseaux sociaux. Mais qu'en est-il de la révolution culturelle? Est-ce que les gens en parlent? Est-ce que les gens s'en plaignent rétrospectivement? Les victimes ont été réhabilitées?
Oui, certaines victimes ont été réhabilitées, bien sûr. D'ailleurs, certaines des victimes de la révolution culturelle sont aujourd'hui au pouvoir, parce que la classe dirigeante actuellement, les dirigeants, ce sont des gens qui, pour un grand nombre, ont subi les exactions de cette période. Mais ça ne veut pas dire que des procès aient été intentés de façon publique, qu'on ait ouvert le dossier. La recherche se poursuit, la recherche historique, par exemple, elle se poursuit surtout à l'extérieur de la Chine, finalement, à Hong Kong, à Taïwan, aux États-Unis... Bien sûr, il y a un silence organisé, Mais c'est un peu comme ce qui s'est passé en Russie. En Russie, bien sûr, les exactions de la période stalinienne sont terminées. Les camps étaient pour la plupart ouverts, mais il n'y a jamais eu de procès. Les bourreaux sont là, ou leurs descendants, leurs souvenirs. Ce qu'ils ont fait n'a jamais pu être mis en question ouvertement dans des confrontations juridiques, judiciaires.
Justement, pour faire, encore une fois, le pont entre la Chine actuelle et la Chine de Mao. Je lis dans l'ouvrage de Yung Chang et John Halliday, Mao, l'histoire inconnue, cette phrase qui m'a beaucoup frappé. Il est dit que le plus grand architecte de Chine, Liang Xicheng, n'a pas été épargné parce qu'il avait qualifié le vœu de Mao que Pékin fût couvert de cheminées de trop abominable pour qu'on puisse même imaginer le résultat. Il a été soumis publiquement à des humiliations et des sévices et son domicile mis à sac. Alors Lucien Bianco, qu'est-ce que c'est que ce vœu de Mao? Qu'est-ce qu'il voulait faire de Pékin?
Mais non, mais une fois de plus, c'est l'inconséquence terrible de Mao. J'ai voulu au début, moi je détestais la révolution culturelle d'emblée, mais voulu dire en sa faveur
oui.
L'intuition. Parce qu'après tout, Staline décide dans les années 30 de prendre son parti. Il va y avoir une classe qui va me servir de privilégié, que je vais payer grassement en honneur et en privilège matériel et qui me sera utile. Et Mao ne se résigne pas à cela, c'est tout ce que je voulais lui reconnaître.
Oui, oui.
Mais bien sûr qu'il est, il est totalement inconséquent.
Mais c'est quoi ce Pékin couvert de cheminées?
Il
voulait quoi? Une ville totalement industrielle?
Il la voulait aussi. Et il ne se résignait pas à la conséquence. Il voulait tout, Mao. Il a voulu développer la Chine, rattraper l'Occident et le dépasser. Et dans une société égalitaire, résultat, à sa mort, l'écart avec les pays capitalistes ou impérialistes s'est aggravé. C'est alors que Taïwan, le vaincu de 1949, s'est développé à toute allure. Et en même temps, les Chinois ils sont pas égalitaires, puisque le revenu des citadins est plus du triple de celui des paysans. Mais à l'intérieur des villes et des campagnes, il y a une même pauvreté en ville et misère à la campagne. Il y a une égalité dans la misère. Donc il n'a rien résolu.
Il n'a rien résolu, mais en même temps, Pierre Pachet, ce Pékin couvert de cheminées, est-ce que ce n'est pas le Pékin d'aujourd'hui en un certain sens? Est-ce qu'il y a... Parce que vous parlez de Pékin comme d'une ville qui a fait table rase de son passé, notamment, et alors là, nous ne sommes plus du tout dans la période maoïste, nous sommes dans la période capitaliste communiste, pour accueillir les Jeux Olympiques. Et vous dites que voilà, ces Jeux Olympiques qui ont été somptueux avec ces cérémonies d'ouverture dont tout le monde se souvient, eh bien, Pékin
en a subi
les conséquences de manière extraordinairement violente et douloureuse. Et tout le monde parle aujourd'hui de l'incroyable pollution de Pékin.
Oui, il y a la pollution, il y a cette ville qui est couverte d'autoroutes, mais avec des bâtiments, c'est pas tellement des usines, des cheminées d'usines qu'il y a dans Pékin, c'est plutôt des bâtiments, des high-rise, des bâtiments de très nombreux étages, une ville tentaculaire, comme, je sais pas, il y a 5 périphériques à l'intérieur de la ville, c'est effrayant, et en même temps, c'est une ville qui donne le sentiment, maintenant dans la prospérité actuelle, qui donne le sentiment d'être pleine de vitalité, où il y a beaucoup d'échanges, où il y a toutes sortes de réunions, mais toujours sous le règne, c'est pas tellement le rêve architectural qui est en cause, c'est le fait que ce rêve architectural, comme le rêve d'urbanisation, le rêve d'industrialisation, est soumis à une directive unique et ne peut pas être contesté localement par telle ou telle association. Parce que, enfin, moi, ce qui m'a frappé dans la réflexion sur la Chine comme dans les visites, c'est que c'est non seulement, je dirais, le règne du parti unique, comme vous avez dit, mais c'est le règne de l'organisation unique. Aucune autre organisation que celle du Parti communiste n'est autorisée, qu'il s'agisse d'une organisation religieuse, aucune organisation qui ne soit sous le contrôle du Parti communiste. C'est en ce sens que je défends l'idée, et je la retrouve dans le livre de Lucien Bianco, que s'il y a un héritage communiste en Chine qui est préservé soigneusement, un héritage, je dirais, léniniste, c'est la mainmise sur le pouvoir et l'interdiction de toute autre source d'autorité, quelle qu'elle soit.
Enfin, il y a le fait qu'il s'agisse en effet d'une organisation unique, mais il y a aussi le sens, le contenu de ces directives. Vous l'écrivez à plusieurs reprises sur Pékin, l'effacement du passé, que vous rencontrez Pierre Pachet dès les premières heures de votre séjour, dans cette ville rasée en grande partie pour faire place nette à ce que les autorités voulaient montrer aux journalistes et au monde lors des Jeux Olympiques. Un monde tout d'un coup exclusivement livré au présent. Et un peu plus loin, vous dites, une gigantesque ville sans âme a été construite à l'occasion des Jeux Olympiques pour montrer aux visiteurs étrangers et chinois une façade propre, sans mendiants ni échoppes, sans grument, avec un métro tout neuf. Et là, on voit peut-être un rapport entre... Enfin, c'est comme si le rêve communiste d'une maîtrise totale de l'homme sur la nature et sur son propre destin, d'un regnum hominis, sans aucun obstacle, eh bien c'est le capitalisme chinois qui, effectivement, sous la direction du parti, était en train de le réaliser. Voilà l'impression que j'ai à la lecture de vos deux livres, Lucien Bianco.
Oui, mais moi je crois effectivement, je suis aussi tout à fait d'accord avec Pierre Pachet, c'est que ce qui reste, c'est l'organisation. L'idéologie, c'est une phraséologie, vous employez le terme, à laquelle plus personne ne croit, ni les dirigeants, ni le peuple. Hein? Là, s'ils ont une vague idéologie, c'est le nationalisme, qui est partagé par une grande partie de la population, hélas, et par le pouvoir. Mais il y en a une illustration toute récente qui est flagrante, après les émeutes d'Hong Kong, parce que le parti ne tient pas. Elle a annoncé au mois d'août la promesse que Deng Xiaoping avait faite dans les négociations avec Thatcher. Donc, un pays, deux systèmes. En 2017, les élections devaient être au suffrage universel. Or, maintenant, le parti décide qu'il y aura un collège électoral, évidemment contrôlé par lui, de quelques centaines de notables, qui choisiront trois candidats et qui sont tous pro-Pékin. Le chef de l'exécutif de Hong Kong, donc représentant du Parti communiste à Hong Kong, a donné comme argument à la presse si c'est le suffrage universel, les pauvres vont l'emporter. Les pauvres sont majoritaires. Vous voyez, un représentant de parti communiste qui vous fait cette sortie comme ça devant la presse. Et donc c'est évident que ce qui reste, c'est cette recette léniniste, le contrôle de tout par un parti, comme vous dites, qui prétend tout contrôler, que tout est politique et en fait qui ne tolère rien politique, aucune opinion divergente.
Oui, je voulais dire un mot parce que je vois à Alain Finkielkraut que, au fond, vous cherchez à déceler dans l'entreprise actuelle, qu'on peut appeler post-totalitaire, mais qui poursuit en un sens le projet totalitaire, vous y cherchez une signification. Et cette signification, si je comprends, et puis je suis ce que votre pensée depuis des années, c'est tout pour le présent et rien pour le passé. Et moi, il m'a semblé, en réfléchissant à tout ça, qu'il n'y a pas de sens particulier dans cette entreprise. Justement, c'est ce qui la rend, à certains égards, particulièrement effrayante. Elle est prête à tolérer beaucoup de choses. De la peinture abstraite, du cinéma expérimental.
Et l'art contemporain, en tout cas.
L'art contemporain, l'exhibition de la sexualité. Elle est prête à supporter beaucoup de choses. Il n'y a pas de direction. Ce qui est essentiel, c'est que le contrôle sur l'ensemble de la société, pas simplement sur les organes du pouvoir, le contrôle sur l'ensemble de la société, le contrôle sur l'appareil judiciaire, soit aux mains des sept membres du comité permanent, du bureau politique, du comité central du Parti communiste. Et là, en ce sens, ils sont particulièrement fidèles, à mon sens, à l'enseignement de Lénine. Enfin,
mais Pierre Pachet, je vois quand même une autre fidélité, une autre continuité. Dans ce que vous écrivez vous-même, vous parlez à un moment donné de cette province occidentale du Gansu, où se déroule une gigantesque opération de remodelage de la nature et de déplacement de population qui aboutit à raser des montagnes pour construire des villes nouvelles. Et on sait aussi les immenses barrages qui s'établissent en Chine. Et ça m'a rappelé l'utopisme de Trotsky, L'homme socialiste maîtrisera la nature entière, y compris ses faisans et ses esturgeons, au moyen de la machine. Il désignera les lieux où les montagnes doivent être abattues, changera le cours des rivières et emprisonnera les océans. Et j'y vois là, moi, une continuité et cela remet en question la définition du totalitarisme donnée aussi bien par Marcel Gauchet quand il dit qu'il s'agit simplement de reconstituer les rouages de l'ancienne totalité religieuse à l'intérieur même de la modernité contestée. Il parle donc de religion séculière, ou même de Claude Lefort, qui est, de façon très émouvante, votre grand interlocuteur dans le livre que vous venez d'écrire, puisqu'il dit « Fascisme et communisme ont participé d'une même contre-révolution. Ils ont entrepris de renverser le cours de la révolution démocratique. » Il y a aussi quelque chose d'hyper-moderne dans le rêve communiste, une maîtrise totale, et je vois que pour le gouvernement chinois actuel, le respect, si vous voulez, du donné, du passé et de la nature n'est pas effectivement une priorité, et que dans la mesure où aucune opposition ne peut véritablement prendre corps, cette hypermodernité peut s'en donner à cœur joie. Lucien Bianco.
Oui, non, à court terme. C'est très commode, le totalitarisme, de contrôler tout. On décide quelque chose et il n'y a pas, comme chez nous, de très longues discussions. Il n'y aura pas de manifestations de bretons ou de grèves ou des pharmaciens ou des huissiers. Ce n'est pas un risque. On décide et c'est appliqué. Ça aussi, même dans l'immédiat, même à court terme, un danger. On fait quelquefois des bêtises, des boulettes qu'on ne reconnaîtra pas. Ça arrive aussi en Chine. Il y a eu aussi, dans l'ensemble, ils arrivent à conduire leur barque à peu près raisonnablement quand on vise un surcroît de puissance et de modernité. Mais enfin, je crois que c'est condamné à terme. Hélas, vous plaignez Pierre Paché en disant « c'est une course de vitesse entre le parti et moi ». Moi qui ai 7 ans de plus que vous, j'ai l'impression que je l'ai perdu d'avance. Hélas, la course de vitesse de mon vivant, je ne verrai pas ce régime tomber. Mais donc...
Pas sûr.
Alors oui, vous dites, Pierre Paché, que vous voudriez vivre l'effritement du pouvoir qui tient la Chine captive. Et vous pensez que c'est une possibilité, que même c'est l'avenir à court ou moyen terme du régime aujourd'hui en Chine.
Je ne peux pas être sûr, je ne suis pas une pitié, je ne peux pas prédire l'avenir. Mais j'ai vécu de mon vivant l'écroulement de l'Union soviétique. Ouais. Événement tout à fait imprévu, imprévisible. Mais il y avait une différence entre quelqu'un comme Castoriadis qui jugeait que le régime était tellement verrouillé que plus rien ne pouvait lui arriver, c'était une stratocratie, un régime militaire, disait-il, et Lefort qui était attentif, et c'est en ça qu'il m'était précieux, au possible toujours surgissement de l'inédit, du nouveau. Alors, moi j'ai vu l'écroulement de l'Union soviétique comme la chute du régime, en Argentine, et toutes sortes de régimes se sont effondrés, parce qu'ils reposent malgré tout sur des hommes qui sont... soumis à la maladie, à la mort. Et puis, je voudrais revenir un tout petit peu en arrière sur la question du moderne, parce que vous avez dit, le projet qu'on voit à l'œuvre en Chine, enfin, je suis désolé qu'on parle tant de politique, mais la politique nous obsède, elle prend de la place. Est-ce que ce projet est hyper moderne? En un sens, c'est un projet qui évite le moderne, en un certain sens du moderne. Mais je prendrais le moderne en un autre sens que vous, mais enfin...
Vous avez raison, le moderne n'est pas unilatéral.
Voilà, au sens, disons, de Max Weber. Qu'est-ce que c'est que la modernisation d'une société? C'est l'avènement d'une société dans laquelle on ne confond pas la croyance et le savoir, on ne confond pas le savoir et le pouvoir, c'est pas le pouvoir qui dit ce qu'il faut connaître, qu'on est sorti de ça. C'est un régime dans lequel on a des fonctionnaires consciencieux, on a des ingénieurs qui veillent à ce que les ascenseurs marchent bien, à ce que la construction soit régulière. C'est un régime dans lequel il y a un contrôle, dans lequel les individus sont responsables de leurs fonctions. C'est ça, en un sens, le moderne. Et la révolution, enfin disons la prise du pouvoir par les communistes en Chine en 1948, comme celle par les bolcheviks en octobre 1917, interrompt un processus de modernisation qui allait dans le sens que j'ai essayé d'indiquer.
Oui, mais alors justement, c'est quand même... curieux, Pierre Pachet, parce que vous faites une comparaison vous-même entre l'évolution de la Chine et l'évolution de la Russie. D'abord, vous dites, vous avez cette phrase qui me semble très juste et belle dans sa simplicité, « J'ai pour le travail bien fait une grande dévotion. Il est pour moi l'un des fondements de la morale et sans doute de la politique. Il est la promesse d'une société humaine vivable. » Or, vous dites, le peuple russe qui est sorti du soviétisme est un peuple démoralisé, découragé, en très mauvais état sanitaire et démographique. Et d'ailleurs, cette sortie du communisme, c'est sûr qu'elle était inattendue, mais enfin, on ne peut pas dire que c'est Poutine qu'on espérait, de même que la confiscation du printemps arabe par l'islamisme ne correspond pas tout à fait aux espoirs mis aux espoirs démocratiques mis dans le printemps arabe. Mais par contraste avec ce peuple démoralisé, découragé, en très mauvais état, vous dites les Chinois se montrent entreprenants, travailleurs, ingénieux, prêts à démontrer leurs valeurs. Et à l'école polytechnique, où j'ai enseigné jusqu'à très récemment, il y a des étudiants chinois nombreux et extraordinairement efficace,
studieux,
voilà, oui. Et extraordinairement studieux. Non, mais donc, c'est aussi ça, la Chine d'aujourd'hui.
Non, mais ces différences ne m'échappent pas.
Pierre Pachet, oui, c'est sensible.
Oui, c'est les différences entre des histoires, entre des peuples, entre des tempéraments, bien sûr. Néanmoins, juste une nuance. Oui, la Russie actuelle, c'est peut-être pas ce qu'on espérait, mais c'est quand même le pouvoir communiste a été détruit. Quoi qu'il en soit, son emprise, la démoralisation est profonde, c'est vrai, mais ce pouvoir a été détruit. Quoi qu'on pense de Poutine, de sa politique étrangère, de ses efforts pour contrôler l'opinion, peu importe. La Russie aura une histoire. Tandis qu'en Chine, il y a quelque chose d'extraordinairement dangereux, à mes yeux, qui est une emprise qui ne se défait pas et qui s'exerce dans le cadre d'une assez grande prospérité, d'une élévation des salaires, etc. Oui, et donc cette emprise, pour moi, est terrifiante.
Lucien Biocco. Je crois que nous sommes vraiment entièrement d'accord et sur
pas
la même
mal,
longueur d'onde.
Mais très bien.
Non, pour moi, donc, c'est vrai. On ne peut pas dire c'est la modernité. Leur but, c'était, et c'était les mandarins chinois du 19e siècle, disaient déjà cela contre les impérialistes qui commençaient à les opprimer. C'est-à-dire, c'était le foutiang, c'est-à-dire la richesse et la puissance. Ils veulent obtenir la richesse et la puissance. Et de là, le nationalisme est encore une fois un des éléments. C'est pas la modernité, c'est loin d'être la modernité à tout point de vue.
Il reste à faire ce qui est d'industrialisme, de technicisme, oui, mais effréné.
Effréné, quand même... mais encore une fois, effréné, le sommet de la technologie est encore importé. Hein. Il y a encore des... c'est le bon marché, c'est l'exportation marche par le bon marché. Quand on compare aujourd'hui, c'est devenu ça en Chine, et ça paraît mieux que Poutine, comme après le communisme.
Bon, mieux que Poutine,
pour beaucoup de gens me disent que dans mon livre, comment ça se fait, c'est dommage, je n'explique pas que la Chine s'en sorte si bien aujourd'hui, alors que la Russie s'en sort si mal. Et j'accepte pas ça, bien sûr que à première vue, oui, la Chine, deuxième puissance économique du monde, avec toutes les ressources naturelles que la Russie, si elle savait les exploiter autrement, a sur son immense territoire, avec une population moindre. Mais la Russie a fait mal, mais elle a fait quelque chose que la Chine, ça reste à faire, il faudra le faire, c'est sortir du communisme.
Oui, et quand même, Poutine est celui qui a déclaré que l'effondrement de l'URSS est la plus grande tragédie du XXe siècle.
Ça, voilà,
mais
ça.
Alors, justement, revenons un instant à la révolution culturelle. Feu sur le quartier général, on mobilise les masses et c'est ce qui subjugue encore Alain Badiou. C'est-à-dire,
Prononçons le nom d'Alain Badiou.
Mais non, parce qu'il a écrit un livre avec Marcel Gauchet, très intéressant, un livre de dialogue, où effectivement il est question de la révolution culturelle. Il dit l'originalité de la révolution culturelle, c'est justement la mobilisation des masses. C'est pas le pratico-inerte, la bureaucratie, c'est le groupe en fusion, pourrait-on dire, si on reprenait la terminologie sartrienne. Geste absolument contraire à l'héritage stalinien tout entier. Bon, bien sûr, mais on sait la réponse qu'on peut faire, ce sont des jeunes manipulés, parce que la jeunesse est quand même assez manipulable du fait de son manichéisme foncier. L'ambiguïté, ça vient avec l'expérience, avec la lecture, avec un certain vieillissement.
Ah ouais ?
Il me semble, oui, je sais pas, peut-être que vous étiez rétif au manichéisme dès votre plus tendre enfance, Pierre Pachet. Mais il me semble que, oui, c'est le destin de beaucoup. Mais précisément, il reste une forme de mobilisation des masses aujourd'hui en Chine, qui est le nationalisme. J'ai sous les yeux le livre de Liu Xiaobo, prix Nobel de la paix, dont vous parlez à plusieurs reprises, Pierre Pachet, et emprisonné. Et ce qui est extraordinaire, il parle de la haine fondée sur le nationalisme, telle qu'elle se répand sur Internet aussi.
Bien sûr.
Et il donne cet exemple extraordinaire de l'incident du vêtement en forme d'étendard japonais de la vedette de cinéma Zhao Wei. Elle fait de la publicité pour une maison de confection. On pense que le dessin du vêtement qu'elle porte ressemble à l'étendard de l'armée japonaise. Et ça déchaîne une folie patriotique dans toute la société. Les condamnations et les insultes se mettent à pleuvoir. Les milieux académiques s'allient pour exercer une violence morale contre Zhao Wei. Et donc, on a là un déchaînement qui ressemble un peu à celui des gardes rouges, mais autour du nationalisme et porté par Internet. Alors, est-ce que ce nationalisme, Pierre Pachet, vous l'avez rencontré vous-même en Chine, dans vos discussions, quand vous parliez du Tibet ou de Japon ?
Oui, il y avait, dans mon second séjour à Pékin, il y avait, c'était un moment de tension avec le Japon. Alors, bon, évidemment, je parlais avec un sinologue français qui était là et qui me disait « Ah oui, j'étais dans le taxi, le chauffeur de taxi m'a dit « Oui, les Japonais, salauds, ils veulent nous prendre des îles, etc. » Et alors le français lui disait « Mais enfin, vous laissez avoir, qu'est-ce que c'est ?» Bien sûr que ce nationalisme, c'est un des outils que le pouvoir utilise, mais...
avec succès ?
À certains moments, c'est pas tellement de nationalisme, c'est le sentiment que la Chine est une grande puissance, qu'elle est reconnue mondialement, qu'elle en a fini avec l'ère de l'impérialisme, qu'elle se hausse au premier rang. Mais tout le monde sait, on pourrait dire intimement, que non, ça n'est pas vrai. C'est-à-dire que l'effervescence créatrice, celle qui permet d'inventer des nouvelles technologies, des nouvelles façons de soigner, des nouvelles façons d'organiser, cette effervescence, elle est absente. C'est pas simplement l'effervescence politique qui est interdite, c'est l'effervescence des cerveaux, celle qui se manifeste lorsque les gens ont le droit de se parler les uns aux autres, d'inventer, d'être dans la solitude, de ne pas être espionnés. Mais je voulais dire quelque chose, Lucien.
Une fois de plus dans votre sens. D'abord, le nationalisme, on ne peut pas dire, vous parlez mobilisation, c'est la même réaction élémentaire que les masses russes qui ne connaissent que ce qui est dit dans la télévision de Poutine et qui sont sûrs que c'est les Américains qui sont les agresseurs en Ukraine, hein, et les fascistes à Maïdan. Et c'est à ce niveau-là, en Chine aussi. C'est donc, ça marche parce que on a été, ça a duré un siècle, et ça on peut battre notre culpe, nous Européens, un héritiers des impérialistes, bien sûr qu'il y a, ce sentiment que la Chine, toujours 5000 ans d'histoire, d'ailleurs 5000 ans, on répète 5000 ans, c'est pas vrai, mais ça fait rien. Moi, une fois, j'avais écrit pour être plus juste 4000 ans. On m'a corrigé au niveau de... Parce que c'est 5000 ans, c'est comme ça. Et donc, ils sont sûrs, on était les premiers, un modèle, le fils du ciel, tout le monde le respectait. Les relations avec les étrangers, c'était que des tribus qu'on lui apportait. Enfin, la fameuse ambassade McCartney des Anglais en 1993.
C'est quoi. Pourquoi raconter qu'est-ce que c'était, cette ambassade?
C'était, après tout, les Anglais, des économistes, pensaient qu'il était bon d'avoir des relations avec les Chinois, et voilà un marché qui pouvait s'ouvrir, et il fallait avoir un consulat à Canton, je ne sais pas de plus que cela, et ils sont arrivés avec énormément d'exemples de produits de manufacture anglaise, et l'empereur a répondu, bien sûr, c'est très amusant, c'est ingénieux tout cela, mais enfin, nous n'en avons nul besoin. Et ils ont évidemment refusé jusqu'à la guerre de l'opium qui les a contraints à accepter accepté l'ouverture de postes diplomatiques et d'échanges, que ce soit la Chine. Il y a quand même ce contentement, cette satisfaction de ce que la Chine a reposé. Elle est unique, elle est sous le ciel, au milieu, le fils du ciel.
Et ce contentement, il est partagé par beaucoup, de haut en bas société chinoise
encore une fois, la comparaison avec la Russie. Vous, il y a une petite minorité qui critique Poutine et sa politique extérieure agressive en Russie. Mais beaucoup de Russes vous font un discours, on ne comprend pas comment ils peuvent vous faire un discours aussi nationaliste.
Et en Chine, c'est pareil.
J'ai souvent ce sentiment-là. C'est la même chose, ça répond. Et finalement, quand il y a plus personne ne croit à l'idéologie marxiste, c'est un substitut commode pour le pouvoir.
Le nationalisme.
Voilà,
alors,
et je ne vois pas autre chose qui guide les dirigeants que la volonté de se maintenir au pouvoir et le nationalisme.
Ouais, peut-être aussi quand même la volonté d'assurer un certain bien-être à une partie, sinon à toute la population, du moins à une partie assez importante. Il y a dans la bourgeoisie, la moyenne bourgeoisie chinoise, une élévation spectaculaire
non,
du
mais
niveau
tout
de
à
vie.
Fait. Si vous voulez, ça, c'est, disons le responsable de cela, le grand architecte, comme on l'appelle, c'est Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, c'était évidemment pas un démocrate, il l'a confirmé en 1989. Bien sûr, c'était... Mais enfin, disons, après tout, on peut bien dire que Atatürk était un dictateur et qu'il a laïcisé la Turquie, il avait franchi un pas. Moi, je vous considère toujours que Deng Xiaoping a joué un bien plus grand rôle dans l'histoire de la Chine que Mao. Et la Chine étant une tellement masse énorme pour l'ensemble de l'histoire humaine. C'est très important.
Et son rôle, c'était quoi, justement?
Et je donne ce crédit que vous venez de dire à Deng Xiaoping. Souvent, j'ai des collègues très... très critique de finalement, ils disent Deng Xiaoping, c'est lui qui a sauvé le parti. On aurait pu se débarrasser du parti après les enneries de la révolution culturelle et Deng l'a sauvé, lui a redonné de la vie. Et je répète toujours, oui, mais Deng a permis à 300, 400, 500 millions de Chinois de sortir de leur misère et ça continue. Aujourd'hui, comme vous disiez, la classe moyenne fait quand même 250 millions d'habitants et c'est tout. Mais aujourd'hui, je pense que l'élévation du niveau de vie. C'est pour ça que ça fait partie du deal. C'est pour ça que quand je dis conserver le pouvoir, ça veut dire on vous donne, ne nous embêtez pas avec les libertés politiques. Hein, c'est ce que Liu Xiaobo, dont vous parlez, appelle la philosophie du porc.
Exactement.
C'est-à-dire accepter. On nous donne à manger, on est nourri et on ne proteste pas. Eh bien c'est un moyen aujourd'hui, pour des gens qui ne croient rien, un moyen pour maintenir le parti au pouvoir.
Oui, c'est une ruse extraordinaire. Enfin, Deng, qui avait lui-même souffert de Mao, qui a été écarté du pouvoir, a fait un geste visionnaire qui a permis, en effet, l'élévation du niveau de vie, et pas seulement de la classe moyenne. Les salaires ont augmenté, beaucoup de choses sont devenues possibles, qui ne l'étaient pas, même s'il y a des transferts autoritaires de population. Il a compris que préserver le pouvoir du parti au moment de juin 1989, où tout a failli basculer. Gorbatchev est venu à Pékin, il y avait des manifestations sur la place Tiananmen. Le secrétaire général du parti était prêt à devenir un Gorbatchev chinois. Et à ce moment-là, il a été écarté. Et la ligne qui a été suivie, c'est celle-là, c'est-à-dire la prospérité, une relative prospérité, pourvu que l'on évite à tout prix ce que je répète, ce qui est pour moi la modernité. À savoir, pardon de contester un tout petit peu, ce qui est pour moi la modernité, à savoir justement l'émergence de citoyens responsables qui ont le droit d'exprimer leurs divergences les uns avec les autres et pas seulement avec le pouvoir.
Je crois qu'il y a plusieurs postulations dans les temps modernes, donc je ne suis pas du tout en désaccord avec ce que vous dites, mais alors, bon, un Gorbatchev chinois aurait peut-être démocratisé la Chine, mais... il y a ce que Olivier Rey appellerait une question de taille. Est-ce qu'un pays d'1,4 milliard habitants peut être un pays démocratique? Qu'est-ce que ça voudrait dire? Est-ce que la démocratie ne conduirait pas à la dislocation de la Chine, à la confédéralisation? Parce qu'on ne voit pas comment créer un gouvernement démocratique avec une base démographique aussi gigantesque.
Oui, je peux dire quelques mots, mais qui ne sont pas une invention de ma part. Justement, en m'appuyant sur ce que Liu Xiaobo et ses amis, ceux qui ont rédigé la charte 08, sur le modèle de la charte que Václav Havel avait rédigée pour la Tchécoslovaquie. Dans cet immense empire où il y a le Tibet, où il y a le Xinjiang, où il y a des régions très, très disparates avec une énorme majorité de Chinois Han, eh bien, Liu Xiaobo appelle de ses voeux et j'aimerais vivre jusqu'au jour où ça viendra une République fédérale de Chine. Je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas une République fédérale de Chine. Ce n'est pas une idée à moi, ce n'est pas moi qui l'ai inventée. Comme il y a une République fédérale, disons, des États-Unis fédéraux, pourquoi pas ? Bien, c'est tout à fait pensable, évidemment. Le pouvoir est arc-bouté contre cela, parce que ce ne serait pas une dislocation, ce serait la reconnaissance de différences qui coexistent, qui ont envie de coexister.
Lucien Bianco.
Oui. Non, moi je crois, je ne suis pas d'accord avec vous, je ne pense pas qu'il y ait un risque de dislocation. Il y a évidemment, tout d'un coup, donner du poids à l'immense paysannerie qui est la malheureuse. Pour l'instant, la politique, c'est est-ce qu'on a un bon secrétaire du parti ou un mauvais qu'on aime ou pas. C'est forcément, ça se limite à cela. Et donc, il représente aujourd'hui 45% de la population, donc du corps électoral. Mais je ne vois pas un risque de dislocation. Il y a vraiment un sentiment de l'unité de la civilisation chinoise très fort chez les Han, qui sont 92% de la population chinoise. Et moi non plus, je vois, oui, peut-être un régime fédéral, mais le danger n'est pas là. Simplement, ça explique que certains membres des classes moyennes, même des intellectuels, des citadins, ils ont une telle peur de la marée paysanne qu'ils ne tiennent pas tellement au suffrage universel. Ils le redoutent. C'est bien sûr qu'aujourd'hui, il y a une des très grandes injustices, c'est ce qu'on appelle le sort des Mingong, ces jeunes villageois qui vont travailler en ville, qui font les travaux les plus durs, en étant les plus mal payés, qui n'ont droit à rien. Leurs enfants ne peuvent pas aller dans les écoles de l'État, pas de sécurité sociale, etc. C'est-à-dire que les sans-papiers chez nous sont des privilégiés par rapport à ces Chinois qui viennent de quelques centaines de kilomètres de l'intérieur. Eh bien, tout d'un coup, quand on tente des réformes qu'il faudrait faire depuis longtemps, qu'on fait de façon à l'échelle locale et expérimentale, la population urbaine réagit mal. Elle est jalouse. Elle préfère conserver les privilèges pour eux et demain le suffrage pour elle aussi. Quoi.
Voilà. Ah, d'accord. Un mot encore avant peut-être d'en venir à l'âme, sur les temps modernes, une des postulations, c'est une sorte de subjectivisme effréné, dont l'individualisme consumériste est un des avatars, et il me semble que cet individualisme consumériste est poussé en Chine à son paroxysme, avec quelque chose qu'analyse magnifiquement Liu Xiaobo, quelque chose de nouveau, là, pour le coup, la politique de l'enfant unique. Les jeunes de la nouvelle génération, dit Liu Xiaobo, où l'enfant unique est devenu la règle, qui ont grandi dans une époque de corruption des esprits, il n'y a plus à s'inquiéter pour sa nourriture et ses vêtements, sont tous des petits empereurs dans leur famille et rivalisent à l'extérieur pour appartenir à la nouvelle humanité et au clan des bobos. Oui, est-ce que la politique de l'enfant unique ne crée pas précisément des hommes qui sont eux-mêmes des enfants gâtés, des petits empereurs, sinon une république, du moins un pays de petits empereurs, oui. Lucien Bianco.
Non, mais il faut préciser que l'enfant unique, quand il a été lancé par Deng Xiaoping, donc ce sont les héritiers, c'est pas Mao. Pour une fois, c'est pas Mao qui en est le responsable. Et moi, j'ai toujours vécu cela comme avec des méthodes maoïstes. Les méthodes de mobilisation, c'était les mêmes. Enfin, les femmes qui étaient obligées d'avorter dans le septième mois de grossesse, et quelquefois on mourait, et tout ce flicage des grossesses régulières, c'était exactement la même chose. Avec un but qui, malheureusement, en soi, était plus rationnel.
Mais oui,
Mao, c'est après tout Mao, comme justement, après là on voit la tradition chinoise, comme Chiang Kai-shek avant lui, comme Sun Yat-sen avant, c'est une force. Notre très grande population, c'est une force.
Ah, oui.
Sun Yat-sen avait quand même dit, le jour où nous nous moderniserons comme le Japon, nous serons automatiquement 10 Japon, puisque nous sommes plus que 10 fois plus peuplés. C'est évident, ça va de soi. Population égale puissance, et nous avons droit à la première place. Et Mao lui lui-même a continué. Quand il y a eu le recensement de 1953, le premier qui a montré que la Chine était si peuplée, et il y a eu des premières voix qui se sont fait entendre pour limiter les naissances, Mao a dit non. Il a dit quelques années après, donc, une bouche à nourrir, c'est aussi deux bras. C'est du nouveau malthusianisme. C'est la bourgeoisie qui est empêchée. La Chine peut nourrir beaucoup plus de personnes. On manque de terre pendant le grand bond en avant. On manque de bras. C'était pas un manque de terre. Les Chinois avaient toujours dit trop d'hommes, pas assez de terre. Ils disent c'est de bras qu'on manque.
Ah oui, d'accord.
Et le malheur. Donc, je voudrais quand même encore dire un mot là-dessus, s'il vous plaît. Donc, c'est allé tellement. Il a réalisé d'ailleurs une fois de plus dans les conséquences dramatiques de sa politique cet objectif. C'est-à-dire qu'en faisant des hauts fourneaux ruraux où les hommes allaient au loin faire des grands travaux hydrauliques pour des projets et autres qui sont révélés ou catastrophiques ou inutiles, et les femmes travaillaient dans les hauts fourneaux ruraux dont on achetait au rebut les 9 dixièmes de l'acier produit. Et il y avait une très bonne récolte en 58, grâce à la météo, mais qu'on a imputé à la politique du grand bond. Et il y a eu on a laissé pourrir sur pied des récoltes, parce qu'il n'y avait pas de bras pour les nourrir. Donc il a tenu ce pari de, c'est vrai, pas assez de bras. Mais c'était un but rationnel, mais avec des méthodes monstrueuses et des souffrances inéluctables. Mais on avait bien dit, pour une génération.
Et bien ça continue.
La génération est largement passée. Ça continue maintenant. Oui.
Mais est-ce que ça a des effets sur le caractère des Chinois ou non, Pierre Pachet?
Je ne sais pas. Je crois que c'est une grande douleur, comme Lucien Bianco vient de le dire. La mise en application de la politique de l'enfant unique, qui n'est pas une politique absurde, parce que ce n'est pas vrai que la population de la Chine peut croître et se multiplier à l'infini. C'est une absurdité. Donc la politique était raisonnable. Elle a causé beaucoup de souffrance. D'ailleurs, elle est en train, à mon avis, de s'assouplir. Oui. Il y a des possibilités qui sont données maintenant. Alors, bien sûr, ça a causé des souffrances. Moi, je n'ai rien vu de tel. Bien sûr que il y a une grande tradition. Enfin, parce qu'au fond, ce qui est beau dans la Chine qui est soumise à ce régime, c'est que c'est une des plus vieilles cultures du monde. Peut-être c'est la plus vieille culture du monde. Elle est là depuis des milliers d'années avec une écriture extraordinaire qui est une des réussites de l'esprit humain. Et les Chinois peuvent être fiers de ça. Ces Chinois qui, très petits, apprennent ces caractères. Donc cette unité chinoise n'est pas qu'une unité nationaliste et dominatrice. Elle est fondée sur la fierté légitime d'appartenir à cette très grande culture qui s'est préservée. Maintenant, moi, j'ai pas vu. Bien sûr, les Chinois sont très attachés à la famille. Une Chinoise me disait, à Paris d'ailleurs, elle me disait, il y a une relation entre les Chinois et les Juifs, si je peux parler des Juifs une seconde. Oh.
Ah, si c'est vous qui le faites. Hein.
Ouais, c'est pas vous.
Du
alors
que c'est
ça ira.
Pas moi. Ouais, du
donc
c'est
on
pas
va
moi,
pas
tout
vous
va bien.
Reprocher.
Tout
non,
va
mais
bien,
elle me disait, elle avait été mariée avec un juif new-yorkais, alors elle connaissait un peu la question. Elle me dit, il y a un rapport entre les Chinois et les Juifs. Ils sont très très attachés à leur famille et ils aiment le commerce. Et en un sens même, ils aiment l'argent comme moyen de relation entre les hommes. Et je le pense, c'est en ce sens que j'ai une grande admiration pour cette culture chinoise et une grande sympathie pour ce qu'ils subissent. Mais,
oui, mais alors,
ça ne répond pas à votre question sur l'enfant unique.
C'est la question qu'on laissera en suspens.
Non, mais
du
vous plaît,
petit empereur.
Une seconde sur ce sujet-là. Non, pardon. Non, parce qu'effectivement, il y a aujourd'hui beaucoup d'exemples d'enfants gâtés, d'enfants rois.
Voilà.
Mais en même temps, il y a aussi la contrepartie. Les Chinois parlent de 4-2-1, c'est-à-dire un seul jeune adulte devra s'occuper de ses deux parents vieux et avec les progrès de la médecine, des quatre grands-parents. Et vraiment, ils refusent maintenant. On met en question la tradition chinoise où la famille, c'est sacré et on doit à la famille avant quiconque d'autre. Et maintenant, il y a l'individualisme. Les gens accusent l'égoïsme de ces enfants uniques qui ont été gâtés et qui, à l'âge adulte, ne veulent plus s'occuper des vieux. Maintenant,
Mais alors, un mot sur le mot âme, Pierre Pachet. Parce que vous l'utilisez, c'est votre titre, l'âme bridée. Alors, qu'est-ce que c'est que l'âme pour nous aujourd'hui, nous qui avions déconstruit l'opposition, l'antinomie métaphysique de l'âme et du corps? Qu'est-ce que ça peut bien représenter, l'âme, pour nous et en Chine?
Pour nous, je ne sais pas. En Chine, je ne sais pas. Mais moi, j'ai été conduit à prendre ce mot, alors que dans plusieurs des livres que j'avais publiés auparavant, je m'appuyais sur le terme d'individu, parce que pour moi, l'individu est un lieu de résistance essentiel. C'est une base de liberté. Mais j'étais conduit à utiliser ce mot « l'âme », dont on ne sait pas très exactement ce qui recoue, mais dont je voudrais dire simplement deux mots, que pour moi, l'âme, ça n'est pas l'âme éternelle, l'âme qui va survivre à l'individu, qui sera distincte du corps. Non, l'âme, c'est quelque chose qui est en nous, qui est en chacun de nous, qui est dans tous les êtres humains, qui n'est pas nécessairement individualisé ni national, je ne parle pas de l'âme chinoise par exemple. Non, c'est quelque chose sur quoi nous devons veiller. Nous devons veiller à ne pas laisser compromettre cette âme qui est en nous, à ne pas la laisser être adultérée, devenir vile. Il faut essayer de la. Nous l'avons reçue, elle nous maintient en vie et il faut essayer de la conserver et si possible de la rendre meilleure en mourant qu'elle n'était à notre naissance.
Oui, et ça c'est une tâche qui nous incombe, que nous soyons chinois ou non.
Voilà.
Vous serez d'accord avec ça,
absolument, et c'est notre grand privilège, que combien de Français ne savent pas à quel point nous sommes privilégiés de vivre dans un régime démocratique. Le fait d'être obligé de mentir, de se taire, de se compromettre, de faire des tractations avec la censure, ne laisse pas les gens indemnes. Et c'est ce qu'il y a de commun aux deux régimes que j'ai essayé de comparer. Havel disait, la ligne de clivage passe à l'intérieur de chacun des individus, de soi. Il faut qui est à la fois, il souffre du système, mais il le supporte, et il le supporte au sens soutien.
Oui, et il n'est pas sûr non plus que sous nos climats, beaucoup plus tempérés, le souci de l'âme soit la préoccupation suprême. Mais je vous remercie tous deux pour cette très belle conversation. Je rappelle les titres de vos livres, Pierre Pachet, L'âme bridée, aux éditions Le Bruit du Temps, une maison d'édition merveilleuse, et votre livre Lucien Blanco, La récidive, Révolution russe, Révolution chinoise, chez Gallimard, la maison d'édition suprême, si l'on peut dire. Vous trouverez toutes les références bibliographiques sur le site répliquefranceculture.fr, où l'émission est téléchargeable un an et réécoutable 1000 jours. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « L'Ukraine, la Russie, l'Europe ». Mes invités seront François Bujon de Lestang et Philippe Delara. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard et Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Cédric Chatelus. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet, La prise d'otage, une arme ancienne.